La 48e édition de la foire agricole de Bourail est ouverte depuis ce matin à Ténée. La première journée, comme de tradition, était consacrée aux concours agricoles. La présidente du Congrès veut présenter le travail effectué par les élus depuis l'installation de l'institution. Virginie Rufneck était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Restriction d'alcool pour 6 communes de Nouvelle-Calédonie, restriction pour ce week-end et le suivant pour prévenir des troubles à l'ordre public liés notamment à la consommation d'alcool. Les prix à la consommation se stabilisent en juillet avec une légère baisse de 0,1% après une hausse de 0,8% en juin. Sur un an, les prix restent toutefois en hausse de 1,1%. Demain, 15 août, c'est la fête catholique de l'Assomption qui célèbre la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. Le traditionnel pèlerinage se déroulera à la Conception. Et puis Maxime Grousset a décroché une nouvelle médaille au championnat d'Europe de retour de blessure après une fracture au pied. Il a terminé deuxième du 100 mètres papillon. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. La première journée de la 48e foire de Bourail s'est donc déroulée sous un temps ensoleillé. Les visiteurs étaient nombreux dès l'ouverture ce matin pour une journée qui est réservée aux professionnels du monde agricole. Reportage Jean-François Bodin.
Le public peut à cette occasion assister au concours d'animaux, concours équins, concours porcin et évidemment le concours bovin le plus prisé. Il représente un travail important pour les producteurs qui présentent des têtes de bétail particulièrement préparées. Concours organisé par l'UPRA Bovine, dont le directeur est Pierrick Arnoux.
Ça permet d'exposer un peu le travail de nos éleveurs, le travail notamment que l'UPRA fait par l'amélioration génétique des troupeaux. Et cette année, on avait 4 animaux présentés. Une génisse de Rottmaster de chez Wilfried Ferré. On avait un petit taureau brahman de chez Flavien Pierson et Sapé Karenga. Et nous avions un limousin et une limousine de l'élevage agricole Ballande.
Quels sont les critères pris en compte pour déterminer quelle est la plus belle bête ?
En fait, on se base un peu sur ce qu'on fait dans notre métier, c'est-à-dire du contrôle de performance. Après avoir eu des poids à H-type des animaux, on va regarder leur morphologie et on va leur donner des notes sur leur morphologie, sur le développement musculaire, donc toute la conformation de l'animal, la manière dont il va accrocher la viande sur sa carcasse, et puis le développement squelettique, donc tout ce qui est le format, les longueurs, la taille de squelette, en fait, qui va aussi beaucoup importer, notamment sur les capacités à développer des grands animaux qui veilleront facilement dans nos pâturages, puisqu'on est quand même sur des systèmes très extensif.
Et ce sont les deux bêtes de l'élevage agricole Ballande qui décrochent cette année le premier prix pour Uniforme, une génisse de 750 kg et Ukraine, un taureau de 920 kg. Deux limousins qui font la fierté d'Emeric Watanabe, ouvrier agricole à la station Ballande de Winané. La préparation des bêtes est un long travail.
Ça prend du temps de préparer ces animaux-là, il faut les adoucir, il faut déjà les attraper pour commencer à les travailler, qu'ils s'habituent vraiment à être aussi doux presque qu'un chien, on va dire. Ça prend beaucoup de temps pour tous les jours, d'aller les voir, les brosser, les adoucir et qu'ils soient tranquilles en notre présence.
Et qu'est-ce qu'on surveille après, tout au long de cette préparation? Le poids, la manière dont ils grossissent, dont ils se développent?
C'est ça, il faut tout surveiller, il faut surveiller qu'ils ne soient pas malades, qu'on les nourrisse bien, qu'ils soient en forme, qu'ils soient vraiment au top de leur forme, quoi.
On sait qu'il y a beaucoup de travail sur la génétique, est-ce que ça fait partie vraiment des choses qui sont importantes pour améliorer la race en Calédonie?
Ah oui, carrément. Alors on reste un des derniers sélectionneurs depuis plus de 130 ans. Ballande est sélectionneur en Limousin et on reste un des derniers en Calédonie. On est en train de se diversifier justement vers la race Sénépol pour pouvoir faire du croisement, pour améliorer justement la génétique par rapport à la tique, quoi, bien sûr, et puis aux qualités bouchard.
Hormis les concours, les visiteurs ont évidemment pu déambuler dans les stands, nombreux pour dénicher le bon produit calédonien. Des producteurs qui ont mis les petits plats dans les grands, comme l'a constaté Pierre Réforma.
Vous nous proposez de la crème d'igname.
Une crème d'igname, oui, qui rappelle un peu la crème de marron, donc à déguster avec nos crêpes.
Du moment qu'il y a on a des clients dans le stand, marché, le petit business.
Et ben pour l'instant, oui, tout se passe bien, le soleil il est sorti, donc on espère qu'il y ait encore plus de monde, qu'il y ait un maximum de personnes qui découvrent les produits locaux.
Vous êtes contente d'être à la foire?
Ben oui, tous les années je fais la foire pour participer avec les mamans du marché.
Vous nous proposez des belles choses là sur votre stand.
Alors vous avez du saucisson de cerf nature, pimenté, et après dans la vitrine des chorizos, jambon de cerf, des petits salés.
Il y a de quoi manger quand même.
Il y a de quoi faire. Bon, avec le beau soleil, on attend beaucoup de monde. Ah oui. On leur dit de venir, il fait beau ici.
La journée n'est pas terminée. À 18h30, ce sera l'élection de Miss Foire de Bouraille et de Miss Bouraille. Et demain, qui est traditionnellement la journée la plus fréquentée, de nombreuses animations sont prévues. Concours de bûcheronnage, d'épluchage de pommes de terre, démonstration de courses de tondeuses. Sans oublier, à 14h, le concours de lancer de claquettes, sport typiquement Foire de Bouraille. Et bien sûr, la première manche du grand rendez-vous en soirée. Bref, une Foire de Bouraille comme on les aime. Athénée, Jean-François Baudin, Radio Rythme Bleu.
Et ce midi, Jean-François, vous nous avez proposé une table ronde en direct depuis le champ de foire Athénée. Vous receviez Jean-Christophe Niotou, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, Livaï Roy, le président du comité organisateur de la foire de Bouraille, et Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la souveraineté alimentaire. Christopher Gigès qui annonce qu'il fallait faire bouger les choses.
On a des outils de distribution qui doivent être aussi réformés. Moi, je veux qu'on aborde sans tabou, parce que ça dure depuis des années où j'entends l'OSEF, ça fonctionne pas, l'OSEF, ça fonctionne pas, l'OSEF, ça fonctionne pas. L'OSEF, ça fonctionne sur un certain nombre de choses, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et il faut le dire, et quand ça marche pas, il faut le réformer, et c'est bien ce que je compte faire.
Donc il y a des outils qui vont peut-être bouger dans les mois qui viennent. Un certain nombre d'outils qui pourraient bouger.
Je pense que si la Nouvelle-Calédonie ne bouge pas aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie risque de mourir. Et aujourd'hui, on a des réformes qui doivent être faites sur les outils de la Nouvelle-Calédonie. L'OSEF est un outil d'intérêt général à la Nouvelle-Calédonie où il y a des choses qui sont bien faites, mais il y a des choses qui sont très mal faites, et notamment sur la commercialisation. Donc je souhaite qu'on puisse aborder ça sans tabou. Il y a des choses qui sont mal faites au gouvernement, on le dit soi-même, hein, mais...
Autocritique.
Voilà, donc réformons et améliorons pour nos professionnels.
Et j'ajoute que la table ronde que vous a proposée Jean-François Baudin ce midi est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Et puis à propos de la voire, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Radio Rythme Bleu qui est à Athénée, d'abord pour rencontrer nos équipes qui sont présentes sur place. Vous pourrez aussi jouer au jeu de la roue avec de nombreux lots à gagner tout au long de la journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. La foire de Bouraille s'est donc ouverte aujourd'hui. Selon vous, cette foire est-elle encore l'événement majeur de la brousse calédonienne? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 55% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être fiers de la compagnie Arcalin. Ils sont en revanche 45% à dire que malgré les pannes et les retards récurrents des avions d'Arcalin, ils éprouvent une certaine fierté pour la compagnie aérienne calédonienne. La présidente du Congrès veut présenter le travail effectué par les élus depuis l'installation de l'institution. En un mois, on a beaucoup agi, affirme Virginie Rufnac, qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence pour évoquer Léana Colombo, notamment son bilan des 30 jours.
Les élus sont au travail, souligne Virginie Rufnac, qui a publié un petit document recensant l'activité du Congrès lors de ses 30 premiers jours. Parmi les thèmes évoqués, la réforme complète du règlement intérieur de l'institution qui devrait aboutir prochainement. Elle sera examinée le 19 août en commission et le 14 septembre par la commission permanente. Et pour la présidente du Congrès, c'est une réforme indispensable, notamment pour supprimer quelques lourdeurs.
Par exemple, pour convoquer une séance publique au Congrès, déjà, vous avez les semaines Congrès où on peut convoquer, et puis vous avez les semaines Provinces qui sont dédiées aux Provinces. Donc déjà, vous pouvez convoquer qu'une semaine sur deux. Mais en plus de cela, il y avait 5 jours francs de délai. 5 jours francs, c'est-à-dire que vous convoquez un jour, vous laissez passer 5 jours, et que la séance peut avoir lieu que le 7e jour. Sauf que souvent, vous tombez sur la semaine qui est dédiée aux Provinces, donc vous vous retrouvez avec 15 jours pour pouvoir avoir une séance publique. Bon, les Calédoniens, ils attendent qu'on examine les textes. Il y a un stock de textes sur le bureau du Congrès, un stock très important. On a un retard fou. Parfois, on a mis 2 années dans le mandat précédent pour pouvoir adopter un texte que les Calédoniens réclamaient. Donc, moi, je passe à 3 jours. Je réduis le délai d'examen, c'est-à-dire que le règlement intérieur proposé, c'est qu'il n'y ait que 3 mois maximum entre le moment où un texte est déposé sur le bureau du Congrès et le moment où il est examiné en commission, et que dès la séance publique qui suit les travaux de commission, on examine le texte. Moi, j'ai proposé aussi une philosophie au-delà du règlement intérieur à l'ensemble des élus, c'est qu'on ne se bloque pas.
La présidente du Congrès souhaite en effet que personne n'empêche l'examen d'un texte. Le règlement intérieur prévoit aussi d'afficher de façon trimestrielle la présence des élus, mais l'objectif affiché est surtout de ne pas perdre de temps. Nous avons demandé à Virginie Rufnac comment les élus ont accueilli cette volonté de réforme et de rapidité.
C'est sûr que, bon, peut-être que j'ai une méthode un peu, on pourrait peut-être la qualifier un peu brutale, mais je crois que non. Je crois que tous les élus ont envie que leur image soit restaurée, parce que finalement, il y a peu d'élus qui ne travaillent pas. Et d'aller, de montrer que voilà, on est efficace. Et ils savent bien qu'il y a des attentes dans la population auxquelles nous devons répondre. Et donc se mettre en ordre de marche, être plus rapide sur nos délais, avoir moins d'obstructions finalement administratives, c'est aussi l'enjeu de notre fonctionnement et je crois que ce sera bénéfique pour tout le monde.
Autre innovation souhaitée par la présidente du Congrès, la mise en œuvre du vote électronique. Il permettrait, explique-t-elle, plus d'efficacité et de modernité.
Il n'y a que des intérêts parce que le vote électronique, vous gagnez encore aussi du temps. Déjà, vous ne faites plus l'appel parce que dès que quelqu'un à son pupitre allume sa plaquette dédiée au vote sur ce pupitre, il est présent, on n'a plus besoin de faire.
On perd un quart d'heure. On sait qu'il y a le quorum.
Voilà, on perd un quart d'heure pour faire l'appel au Congrès. Ensuite, quand quelqu'un a une procuration, elle est directement placée sur sa tablette de vote et donc tout de suite, les choses sont beaucoup plus rapides. Vous pouvez avoir un bilan par élu de tout ce qu'il a voté lors d'un mandat. Vous avez un affichage immédiat du résultat du vote. Bref, c'est aussi un gain de temps, un gain d'efficacité. En termes d'évaluation, c'est intéressant, même pour l'élu lui-même, de savoir ce qu'il a voté, de pouvoir l'afficher. Il faut qu'on fasse comme on le fait ailleurs.
Et Virginie Rufnac profitera de son prochain déplacement avec la mission transpartisane pour faire le point sur ce sujet avec les services du Sénat qui est partenaire dans cette mise en place du vote électronique. Au passage, la présidente du Congrès souligne que les recommandations de la Chambre territoriale des comptes concernant l'institution ont été mises en œuvre et que les dépenses des élus sont encadrées, notamment celles de leur déplacement. Le Congrès qui sera informé prochainement par le gouvernement de la situation financière réelle de la Calédonie lors d'une commission plénière, mais les grandes lignes sont bien sûr déjà connues.
On s'aperçoit vraiment de quelque chose avant 2024. Certes, il y avait des petites fluctuations, et notamment sur les recettes fiscales que percevait la Calédonie, plutôt à la baisse du fait d'une instabilité, mais ça restait dans quelque chose de raisonnable. La chute libre, c'est 2024. Là, nos recettes fiscales s'effondrent avec l'impact sur les collectivités et la vie des Calédoniens. Donc là, aujourd'hui, on a l'opportunité dans ces 2-3 années de redresser la Calédonie, de lui redonner une situation économique et sociale d'avant 2024. Je pense que dans tous les camps, il y a des hommes et des femmes qui sont animés de l'envie que ça se passe. Maintenant, on verra bien. Aujourd'hui, les élus indépendantistes sont mobilisés au Congrès. Nos réunions de bureau sont pratiquement au complet à chaque fois. Les commissions plénières sont extrêmement nombreuses en élus. Donc, pour l'instant, tout le monde est intéressé au travail dans tous les groupes.
Comme cela a été annoncé, une mission transpartisane composée de 8 personnes, dont les présidents du Congrès et du gouvernement, va se rendre à Paris du 31 août au 5 septembre. Elle doit aller chercher des milliards.
Il y a 27,5 milliards CFP qui manquent sur le prêt garanti par l'État, sur lequel l'État s'était engagé, qui n'ont pas été versés. Il y a 7,2 milliards de subventions qui nous étaient promis depuis Élisée Oudinot, qui n'ont pas été versées. Et puis, le président du gouvernement l'a annoncé, il manque encore un peu pour assurer 2026 et début 2027. C'est-à-dire que nous savons que nous allons chercher un peu plus de 10 milliards supplémentaires. Il faut que les Calédoniens sachent qu'on a un rendez-vous très important à Paris. C'est le projet de loi de finances qui va passer à l'Assemblée nationale septembre-octobre et au Sénat ensuite. Et ça, nous souhaitons absolument que la Nouvelle-Calédonie soit dans ce projet de loi de finances parce que ce que nous avons pour 2027 n'est aussi pas encore suffisant.
Et au travers de ce déplacement, mais aussi des réformes engagées, l'objectif, affirme Virginie Rufnac, c'est d'arriver à redresser la Nouvelle-Calédonie.
Notre volonté, c'est quoi ? C'est pas toujours de mendier de l'argent supplémentaire, c'est de faire les réformes, parce que nous avons fait beaucoup de réformes déjà. Nous avons fait beaucoup de réformes, et même plus que la France n'en a fait elle-même. Donc nous disons aussi à Paris qu'on n'a pas été en retrait sur les réformes, les jours de carence, le travail de restriction. On a encore des réformes à mener, bien sûr, notamment sur la réduction de dépenses publiques, c'est nécessaire de faire très attention. Mais néanmoins, ce que nous voulons, c'est que ces 2 prochaines années, on a une petite reprise, il y a un frémissement de reprise économique, on voit les recettes fiscales commencent à nouveau à augmenter, c'est un très très bon signe, mais c'est vraiment qu'un frémissement. Cet accompagnement de l'État doit être là jusqu'au bout pour qu'ensuite, en 2028, nous soyons dans une autre situation et moins dans le besoin.
Et la mission transpartisane doit avoir des rendez-vous au plus haut niveau de l'État, au Sénat, à l'Assemblée nationale, à Matignon et à Bercy. Elle aura peut-être aussi une rencontre avec le président de la République.
Une interview de la présidente du Congrès, Virginie Rufnac, qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la visionner et l'écouter en podcast sur notre site internet. Vive tension ce matin lors de la séance publique de l'Assemblée de la Province Nord qui était réunie à Connay. C'est la délibération sur l'approbation du rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de Nord Avenir qui a mis le feu aux poudres. Le chef du groupe UCF-LNCS, Pascal Sabois, a souhaité déposer un amendement Véran et le président de la province Nord, Paul Néaoutine, s'y est opposé en proposant finalement de renvoyer le texte en commission. Il s'en est suivi une vive passe d'armes entre Paul Néaoutine et Pascal Saoua. Le commentaire du chef du groupe UCFLNKS.
Oui, une séance houleuse. Hein. La première chose, c'est qu'on avait proposé un amendement pour la délibération concernant le rapport d'observation définitif. Cet amendement n'a pas été traité, hein, comme le veut le règlement intérieur de la province en assemblée, et ça a été reporté. Donc nous, hein, à notre lecture du règlement intérieur, c'est quand même un vice de procédure hein, sur la forme. Ensuite, concernant le rapport en lui-même, c'est quand même un rapport à charge pour Nord Avenir et pour la province Nord. Donc on invite l'ensemble des habitants de la province Nord à prendre connaissance du rapport, sans qu'il soit éclairé sur la situation des outils de développement d'une part et de la province d'autre part.
On ne connaît pas la teneur de l'amendement que voulait déposer Pascal Saoua, mais il souligne que le rapport de la CTC sur Nord Avenir est un rapport à charge pour la gestion de la province Nord.
Il y a plusieurs éléments hein, qui sont ressortis dans le cadre du rapport. Il y a déjà un problème dans le cadre de la gouvernance. Donc ça, il y a pas mal de réajustements, de modifications à faire au niveau de la province et au niveau de Nord Avenir. Il y a aussi un problème concernant les objectifs et le suivi hein, des objectifs. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre sur l'utilisation des moyens et sur les objectifs en termes de performance. Hein. Et puis ensuite, il y a aussi hein, un problème de diversification.
Mais le groupe Agissons Ensemble pour le Nord n'a pas pris part aux échanges, mais son chef de groupe, Vanessa Wakiapo, a constaté la tension qui régnait dans l'hémicycle.
Alors effectivement, il y a eu des échanges assez tendus entre les différents groupes. Le point à l'ordre du jour qui a fait débat, c'était le rapport de la CTC concernant la politique et la stratégie mise en place et les recommandations de ce rapport qui ont été débattues. Enfin, il n'y a pas eu débat. Donc, le groupe UC a demandé une suspension de séance parce qu'ils ont déposé des amendements. Et l'exécutif a demandé à ce que ces amendements soient étudiés et renvoyés en commission ad hoc. Donc il y a une suspension qui a été demandée par le groupe UC. Et ensuite, à l'issue de la suspension, il a fallu adopter et valider si la délibération soit renvoyée en commission ad hoc ou pas. Donc pour notre part, le groupe Agissons Ensemble pour le Nord, nous avons voté pour le renvoi en commission ad hoc parce que nous n'avons pas eu l'information des amendements déposés par le groupe UC.
Le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de Nord Avenir devrait donc repartir en commission pour être de nouveau examiné. Mais cet épisode traduit l'ambiance qui règne dans l'Assemblée de la province Nord depuis son installation après les provinciales du 28 juin. On rappelle que la liste UCFLNKS est arrivée en tête avec 10 sièges contre 9 à la liste de Paul Néaoutine et 3 à la liste Agissons Ensemble pour le Nord. Il est 18h02, on va marquer une première pause dans ce journal. L'eau ferrugineuse, oui, l'alcool, non, c'est à suivre dans un instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
EEC Smart, l'appli qui simplifie la vie. Vous suivez votre consommation en direct. Vous voyez vos factures, les coupures, les conseils, les incidents. Vous pouvez aussi payer en ligne et transmettre vos index solaires. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Radio Rythme Bleu vous donne rendez-vous vendredi, samedi et dimanche à la Foire de Boureil. Des émissions spéciales, des reportages dans les journaux d'information, des dédicaces en direct de Téné dimanche matin.
Ah ouais.
Sans oublier la roue de la chance RRB avec vos animateurs préférés.
Yeah, il va y avoir quoi?
De nombreux lots à gagner, dont une nuit pour deux personnes au Comte des Villages à Yengen, des bons de 3000 francs pour aller se régaler au restaurant Le Fun, des bons d'essence avec vos stations Shell et Pacifique et bien d'autres lots. RRB, au cœur de la brousse pour vous faire vivre la 48e Foire agricole de Boureil.
Info Soir, Lionel Sabot.
La consommation d'alcool sur la voie publique interdite ce week-end dans 6 communes de Nouvelle-Calédonie. Le Haut-Commissariat a renforcé les restrictions dans les communes du Grand Nouméa, Ordimbéa, à Bouraille, Yaté et Point-d'Imier, Léana.
Oui, à Bouraille, ces interdictions sont liées à l'organisation de la foire qui se poursuit jusqu'à dimanche. Le transport d'alcool est également interdit pendant cette période. À Yaté, la vente, le transport et la consommation d'alcool sont interdites en raison de l'organisation de plusieurs mariages et rassemblements tout le week-end. À Nouméa, au Mont-d'Or et à Païta, les restrictions s'appliquent durant les deux prochains jours, mais aussi le week-end suivant. L'objectif est de contribuer au maintien de la tranquillité et de la sécurité publique dans un contexte marqué par une hausse des faits de délinquance commis sous l'emprise de l'alcool. Des actes d'incivilité constatés également à Point-d'Imier, où la consommation et la vente d'alcool à emporter sont interdites ce week-end et à nouveau le week-end prochain.
En bref, au chapitre des faits divers, cet accident de la route en début d'après-midi à Nouville, deux personnes ont été transportées en urgence relative aux Medipol après un choc frontal entre deux voitures en face des cacaos du Pacifique. Une femme de 40 ans et un homme de 20 ans ont été pris en charge par les secours. Un troisième individu âgé de 20 ans est indemne. Une enquête a été ouverte. Les prix à la consommation se stabilisent en juillet en Nouvelle-Calédonie. Après une hausse de 0,8% en juin, l'indice général recule très légèrement, 0,1%. Et sur un an, les prix restent toutefois en hausse de 1,1%.
Une évolution notamment liée à la baisse des prix de l'énergie, moins 1,2% après 3 mois consécutifs de hausse. Mais c'est surtout le prix des carburants qui explique ce recul. Le gazole baisse de 7,5% après avoir augmenté de 14% en juin. Autre baisse, celle des prix de l'alimentation, moins 0,2% en juillet. Les légumes sont particulièrement concernés avec une baisse de 3,9%. À l'inverse, les prix des fruits augmentent de 2,5%, tandis que ceux de la viande progressent légèrement. Du côté des services, les prix augmentent de 0,2%, notamment sous l'effet de la hausse des tarifs du transport aérien international et des assurances liées à l'habitation qui bondissent de 8,2%. Pour les ménages les plus modestes, la situation est similaire à celle de l'ensemble des ménages avec une baisse de 0,1% en juillet. Sur un an, leur indice des prix augmente de 1%.
En plus de la 48e foire de Bouraille ce week-end, nous en parlions au début de ce journal, les Calédoniens pourront aussi se rendre à Moindou où, dans le cadre de la 32e édition du Mois du Patrimoine en province sud, un spectacle déambulatoire est proposé en ce moment à Fort-Terrimbas. Écoutez Ingrid Tateia, la coordinatrice du Mois du Patrimoine en province sud. Elle revient justement sur le spectacle qui est proposé à Fort-Terrimbas.
On vous invite au Fort de Terrimbas pour découvrir à 18h un spectacle déambulatoire derrière les murs. Et ce sera l'occasion également pour les familles qui le souhaitent de dormir sur place. Il y a un espace camping de proposé avec un buffet broussard, le petit déjeuner. Et le lendemain, visiter également le Fort de Terrimbas à travers une balade à vélo ou une simple visite historique et ornithologique.
Et le premier rendez-vous donc de ce Mois du Patrimoine en province sud, c'est en ce moment même à Fort-Terrimbas avec un spectacle déambulatoire et participatif. Tous les rendez-vous du Mois du Patrimoine en province sud sont gratuits. C'est demain, le 15 août, la fête catholique de l'Assomption qui célèbre la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. Elle sera marquée par le traditionnel pèlerinage de la Conception auquel vont participer des milliers de fidèles sous la présidence de l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Poé. Ce pèlerinage se déroule pendant l'année jubilaire qui commémore les 60 ans de la création de l'archidiocèse de Nouméa et dont le thème est « Fidèle à la mémoire, ouvert à l'avenir ». Il verra également le renouvellement de la consécration à du diocèse de Nouméa à l'Immaculée Conception. Les précisions de Salima Manoukala, la présidente du comité 60 ans du diocèse de Nouméa.
Cette intégration, c'était surtout par rapport à la prière de consécration, parce qu'il nous avait été demandé à un moment donné de renouveler cette consécration à la Vierge de l'Immaculée. Et nous, il nous a fallu inviter les congrégations, les mouvements maristes, les groupes légionnaires, le Tiers-Ordre de Marie et le mouvement du Focolari. Ensemble avec eux, on a lu les textes, on a fusionné. Puis de là, ce texte a été acté et envoyé à l'évêque par le biais de notre référent Père Ken, dont là l'évêque a fait avec deux autres prières de consécration, d'où justement la réalisation de cette prière de consécration qui va être lue le 15 août avant la célébration par l'évêque et toute l'assemblée des chrétiens.
Et pour préparer cet événement, les fidèles sont réunis depuis le 6 août pour une neuvaine de prières qui sera clôturée ce soir. Et demain, les pèlerins convergeront à pied jusqu'à l'église de la Conception. La plupart d'entre eux partiront à 7h le matin en chantant et en récitant les prières. C'est la foi qui rassemble chaque année des milliers de fidèles, explique Iliassa, elle est membre du comité 15 août.
Ce qui est important, c'est ce qui mobilise ces quelques centaines, ces quelques milliers ou ces quelques dizaines à faire des kilomètres pour pouvoir rendre gloire au Seigneur avant tout. C'est vrai que la fête de l'Assomption, c'est cette élévation de notre mère, notre maman Marie, dont l'Assomption, il y a un geste du Père qui vient récupérer maman Marie, puisqu'elle a servi d'assise pour notre Seigneur.
Un propos recueilli par Kélinda Boicou, la messe de l'Assomption sera célébrée demain à 15h par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Poé. J'ajoute qu'un pèlerinage aura lieu également à Conné dimanche le 16. 16 août à partir de 7h avec la célébration de la messe à 10h par le père Jacques Souta. Dès demain soir, le comité paroissial de Connay organise une veillée mariale en l'église Notre-Dame de l'Assomption. Il est 18h et pratiquement 10 minutes, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, sport et météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Et ouais !
Du lundi au vendredi, de 11h à 13h, c'est l'Infomag, avec le village automobile au PK4 à Nouméa. Le village automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et surtout 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Allez, l'actualité sportive avec de la natation et pas de victoire, mais une nouvelle médaille tout de même pour Maxime Grousset au championnat d'Europe. Le Calédonien a décroché l'argent sur le 100 mètres papillon. Champion du monde en titre de la distance, Maxime Grousset revient de blessure. Malgré une fracture au pied gauche survenue en juin, il avait réalisé le troisième meilleur temps des demi-finales. Et la nuit dernière, dans une finale particulièrement relevée, il a terminé à la deuxième place en 49 secondes 70, juste derrière le Hongrois Christophe Milak en 49-48 et juste devant le Suisse Noé Ponti en 49-93. Écoutez Maxime Grousset.
Ah, je suis vraiment fier de moi. Passer sous les 50 secondes avec, voilà, comme on dit, une préparation pas optimale. Il y avait une ambiance de folie. Je suis bien parti. Malheureusement, je craque un peu sur la fin. C'est le jeu. Mais ce n'est que partie remise.
Et pour rappel, le record du monde du 100 mètres papillon est détenu par l'Américain Caleb Dressel en 49 secondes 45. Avec cette deuxième place, Maxime Grousset décroche sa troisième médaille dans ses championnats d'Europe, deux en argent et une en or. Voyons à présent quels seront les principaux rendez-vous sport du week-end en métropole et dans le monde. Autant vous le dire, en ce week-end du 15 août, les rendez-vous ne sont pas forcément très nombreux et concerneront presque essentiellement le football. S'il va falloir encore attendre la semaine prochaine pour assister à la première journée du championnat de France de Ligue 1. Deux clubs qui auront animé le dernier exercice se retrouveront pour ouvrir la saison. C'est en effet lundi matin pour nous que se jouera le trophée des champions. Le Paris Saint-Germain, le champion de France, rencontrera Lens, le vainqueur de la Coupe de France. Coup d'envoi de la rencontre à 5h45. Avant ce trophée des champions, ce sont les clubs de Ligue 2 qui seront sur les pelouses avec à suivre dès demain matin la deuxième journée. Les 9 matchs se joueront simultanément. À suivre Annecy-Rodez, Dijon-Pau, Grenoble-Metz, Guingamp, Boulogne-sur-Mer, Laval-Nantes, Nancy-Montpellier, Red Star-Sochaux, Reims-Dunkerque et Saint-Étienne-Clermont. On continue cet agenda des sports sur le territoire avec tout d'abord du beach tennis. Demain et dimanche à Nouméa, plus de 60 joueurs et joueuses seront réunis sur la plage de Lansvata pour 3 tournois, hommes, femmes et mixtes. 6 terrains sont mis en place, dont un réservé à la découverte de la discipline. C'est le plus grand rendez-vous beach tennis en Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous de 8h à 17h. Du football et la 13e journée de Super League. 4 matchs au stade Numadele. Demain à 15h, Magenta Yengen, puis le Sigaïcha à 17h30. Dimanche à 13h, Nejeu Kounié et Horizon Saint-Louis à 15h30. Pour rappel, Tiga avait battu le Mont-d'Or 6-0 en match avancé. En futsal, la sélection de Nouvelle-Calédonie dispute 2 matchs amicaux ce week-end à l'Arène du Sud de Païta, demain à 15h30 contre la sélection U23, puis dimanche à la même heure contre la TGI. Du cyclisme sur piste à Nouméa avec les championnats de Nouvelle-Calédonie qui continuent ce soir sur le vélodrome de Magenta. Au programme, la poursuite, la course au point et la tempo race. Les championnats de Nouvelle-Calédonie de badminton également ce week-end. Demain et dimanche, la salle Omnisport de Païta accueille près de 100 joueurs pour les doubles messieurs, dames et mixtes. Et puis on termine du côté de Pointe-Boute avec le raid de Wété organisé par Chalons Organisation. 3 parcours seront proposés demain matin. Le grand raid 20 km, le mini raid 10 km, mais aussi un parcours en famille de 3,5 km dans la tribu de Wété. On termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sans les murs depuis 1971. Showroom sans les bains à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Ismaël, et ça commence bien puisqu'il n'y a aucune vigilance signalée.
Et oui, et ce soir, la nuit est bien étoilée sur l'ensemble du territoire, même si quelques nuages viennent s'échouer sur le littoral ouest. En fin de nuit, des passages nuageux sur l'extrême sud peuvent parfois donner quelques gouttes. Le vent de sud à sud-est souffle autour de 15 nœuds sur l'extrême nord. Il est souvent compris entre 10 et 15 nœuds ailleurs. Et notons que les températures de la nuit baissent encore, souvent comprises entre 14 et 19 degrés. Elles atteignent localement 11 à 12 degrés dans l'intérieur et les îles.
Et pour demain matin, ça commence plutôt bien et puis voilà, ça va mal se terminer.
Les nuages qui deviendront progressivement plus nombreux, notamment sur la pointe sud et sur le sud-ouest, où quelques averses faibles seront présentes. Le vent de sud à sud-est se rapproche de 15 nœuds sur l'ouest et localement autour de 10 nœuds sur l'est.
Mais heureusement, demain après-midi, le soleil fait son grand retour.
Le ciel qui redeviendra plus variable avec localement des éclaircies qui prendront le dessus. Bonne nouvelle, vous l'avez dit. Des nuages déborderont en revanche sur l'est où ils pourront donner quelques faibles averses. De faibles pluies seront également possibles sur le sud-ouest. Le vent s'orientera à sud-sud-est, se renforcera sur l'ouest entre 15 et 20 nœuds et 10 à 15 nœuds sur l'est. On termine Lionel avec les températures qui baisseront encore, souvent comprises entre 21 et 23 degrés.
Bon, ça s'annonce plutôt pas mal ce week-end, notamment pour aller à la foire de Bouraille. Je vous rappelle, si vous montez du côté de Bouraille, qu'on est pépère sur la route. Les animaux ne vont pas s'en aller, donc ils vous attendront sans problème. On est prudent, mais sa ceinture de sécurité, on roule à 110 et tout ira très bien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.